le sport, tous les sports. CFM.
Lundi Sport, bonjour, avec toute l'équipe réunie dans trois studios de CFM à Caylus, à Rodez et à Montauban. Nous allons vous présenter l'actualité internationale, nationale et régionale des sports de ce week-end. On va s'étaler longuement sur le football parce que Jean-Claude Vigroux, il adore ça. Salut Jean-Claude.
Bonsoir.
On s'étalera également de tout notre long sur les terrains de rugby de France et de Navarre parce que Jean-Claude Defarge, il adore ça. Salut.
Salut, salut. Et il y aura des reportages.
On parlera également de handball féminin parce que David Dumont adore le féminin.
C'est vrai aussi.
Mais pas le handball.
On parlera également de football parce que Jennings Darcourt adore le football. Salut Jennings.
Salut Rémi, salut tout le monde.
On parlera de handisport aussi hein, parce que tu aimes ça aussi. Parce que David Fabier adore le football également.
Il est là, il est là.
Et parce que Yannick adore le football aussi.
Oui, j'adore tout.
Toi, t'adores tous les sports.
Voilà,
du
c'est
coup,
ça.
Voilà, chacun d'entre vous aura bien préparé quelques questions hein, pour des quiz qui rythmeront cette émission. J'ai vu déjà le sourire de Jennings qui est trop fier de la question qu'il a trouvée dès aujourd'hui. Et on va commencer illico presto par du football. Et on commence peut-être par l'Euro 2016. Il y a eu le tirage au sort.
Bien oui, il y a eu tirage au sort et la France tombe dans la poule de l'Albanie, de la Roumanie et de la Suisse. Apparemment, c'est une poule facile, mais méfions-nous des équipes comme l'Albanie ou la Roumanie. Si ce jour-là, ils ont faim, eh bien, on risque d'être bouffé tout cru. Mais ça peut se jouer et on espère une qualification des Français. Il y avait également le tirage au sort de la Coupe d'Europe pour les clubs et le Paris Saint-Germain va rencontrer Chelsea. Le match aller, le premier match aura lieu à Paris, le match retour à Chelsea. Je pense que c'est faisable aussi si les Parisiens continuent sur la lancée qu'ils ont jusqu'à maintenant. Eh bien, il devrait pas y avoir trop de problèmes, surtout que Chelsea est en train de patiner dans la semoule pour le moment. Et en championnat, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, lui, alors là, on ne demande plus qui est le leader. Paris Saint-Germain en tête avec 48 points, 17 points de plus que le second Angers. Le Paris Saint-Germain qui a mis une pâtée à Lyon, 5-1 sur sa pelouse du Parc des Princes. Angers et Bordeaux ont fait match nul, un but partout. Monaco s'est débarrassé de Saint-Étienne, mais difficilement, c'est sur un pénalty que les Monégasques ont gagné, 1-0. Une équipe qui revient bien, c'est l'équipe de Lille qui se revient à la 11e place après sa victoire 3-0 face à Lorient. Donc un bon résultat pour les Lillois. En fin de tableau, on trouve 20e 3, 19e Toulouse et 18e Guingamp. Quant à Marseille, eh bien je le garde toujours pour la fin. Ils ont le pied dans le béton, ils n'ont pas été mis encore dans le vieux port, mais c'est difficile pour les Marseillais de gagner au stade Vélodrome. Ils ont fait match nul contre la petite équipe d'Ajaccio, 1-0, et même Ajaccio aurait pu gagner car on leur a refusé un but qui apparemment semblait valable. Après les filles, eh bien nous avons les garçons. Nous avons les filles.
Ça va. Il n'a pas pris ses cachets encore.
Ou j'en ai trop pris. Eh bien, il y avait un grand match à Polignon devant 2500 spectateurs des Ruthénoises qui recevaient le Paris Saint-Germain. Eh bien, le Paris Saint-Germain, figurez-vous, a gagné, mais difficilement par 1-0 seulement. Un but marqué par Mittag, l'Allemand du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, sur ce match, on va écouter Solène Barbans qui va nous donner la satisfaction qu'elle a eue dans cette rencontre.
Quand même, on a récupéré pas mal de ballons, on a défendu courageusement et je trouve qu'on a fait une grosse prestation aujourd'hui quand même. 1-0 à la maison, je trouve que contre un prétendant à Ligue des Champions qui est encore en lice pour cette année, c'est une très bonne prestation. Ça récompense, je dirais, le début de saison qu'on fait qui est très bon, quoi.
Tableau d'affichage 1-0 pour le PSG, mais moi je dis c'est vous qui avez gagné.
Non, on peut pas dire ça parce qu'on reste des compétitrices et malgré tout on perd le match. Voilà, après c'est une bonne prestation parce que 1-0 ça reste quand même un bon résultat. Après voilà, on avait à cœur de faire une belle prestation, de montrer qu'on avait envie de voilà, qu'il y avait l'ombre du maillot et qu'on ne faisait pas, on faisait pas semblant. On avait envie que le public soit présent et qu'ils reviennent plus nombreux, mais même si c'est pas le PSG. Je pense qu'aujourd'hui on a fait mission réussie. Voilà, maintenant faut rebondir. Il y a Saint-Étienne qui arrive dans une semaine et avant les fêtes de Noël, je pense que ce serait bien d'aller chercher un bon résultat là-bas.
Eh bien, au classement, nous avons toujours en tête Lyon. Lyon qui a mis un carton à l'équipe de Saint-Maur, 8-1. Ça fait mal, hein. Là, ça fait mal quand on voit la différence de but. Lyon a plus 65 buts d'avance, donc ils sont tranquille. Le deuxième, c'est Montpellier qui a fait le match nul contre Nîmes. Montpellier a gagné 1-0 contre Nîmes Métropole et se trouve donc à la deuxième place. Troisième, Paris Saint-Germain. Les Ruthénoises, elles, restent à la cinquième place et la SPTT Albi a fait match nul contre la Roche-sur-Yon, un but partout et se trouve, elle, à la septième place.
J'ai totalement oublié d'annoncer quand même qu'on avait deux dossiers, hein, dans cette émission tout à l'heure. Un premier dossier, nous nous intéresserons à un collectif de clubs de sport qui au niveau national a signé une pétition contre la chasse le dimanche, ou plutôt pour un dimanche sans chasse. Nous en discuterons avec Étienne Spataro qui est président d'un club de randonnée. Et puis, on s'intéressera aussi, évidemment, au championnat de France des clubs de boules. Avec la boule d'or de Gaillac. On aura le président en interview. C'est un reportage signé Jean-Claude Desfarges. Voilà. Avant de passer à la première question quiz de David Dumont, peut-être un petit point sur le handball féminin.
Ah ouais, il y a un championnat du monde, figurez-vous, en ce moment, avec toute la grosse actu qu'il y a dans le sport, et pas seulement, on a tendance à l'oublier, championnat du monde de handball féminin qui se déroule au Danemark, et nos petites françaises qui continuent leur chemin. Elles jouent en huitième de finale avec un match face à l'Espagne dans 5 minutes. Maintenant, on espère passer le cap de ces huitièmes de finale, parce que l'équipe de France de hand féminin, normalement, ça va beaucoup plus loin, on surveillera ça, évidemment, ces françaises dans ce mondial de hand au Danemark. La pop.
Ah, je sais pas, j'ai entendu la pop. le quiz peut-être. Non, juste un mot quand même sur le l'euro.
Le tirage la sélection. Facile, quand on voit les autres poules.
On va rigoler.
Notamment celui de la Belgique, je pense qu'on peut dire qu'on s'en sort très bien. Par contre, il faudra y aller avec une idée de jeu et avec une défense centrale dont on ne connaît pas le nom depuis des années. Et c'est ça le problème de l'équipe de France et qui va faire encore défaut quand on va affronter de grosses équipes, notamment en huitième de finale.
Quand est-ce qu'on affrontera le Brésil
en Europe.
Encore un peu la tectonique des plaques.
Allez, la question de David.
Moi, justement, elle concerne l'Euro 2016. Alors, allez, je pense assez facile comme question. Donc, à mon avis, ça va être rapide. Je vais tout simplement vous demander quel est le meilleur buteur en phase finale d'un Euro.
D'un Euro de handball?
Non, de football.
Ah, de foot.
Eh oui.
Thomas Müller. 2016.
Non. Je m'attendais à ce que ça tombe tout de suite.
De quoi?
Le meilleur buteur en phase finale d'un euro.
Zidane?
Non.
Klose?
Non plus. Mais vous allez chercher trop loin. Zidane, encore, c'était pas mal.
Quelle nationalité?
Papin.
Non plus.
Il est français.
Henri Benzema.
Il est français?
Il est français.
Platoche?
Thierry Henry.
Voilà. Michel Platini.
9 buts.
En 84.
Voilà.
9 buts. 9 buts en 5 matchs.
Tu vois?
Ah bravo! Oui,
je sais, un peu.
Je m'attendais à ce que vous répondiez plus vite.
Il est fort ce David alors.
Un peu de musique et puis on revient dans un instant avec une autre question et puis du rugby surtout.
Oh,
c'était le groupe Beyrouth mené par Zach Condon. Lundi sport, quand on parle de Condon, on donne la parole à Jean-Claude Desfarges. Pas à cause du préservatif, mais à cause du Gers, je sais pas, tu vois.
Oui, il y avait une belle équipe à Condon, c'est vrai, t'as raison.
Ah, tu vois.
Ouais, et bien on va parler de Coupe d'Europe, de rugby. Alors on peut dire que c'est mitigé, cochon d'Inde pour les clubs français. Hein. On va prendre poule par poule. Poule 1, et bien c'est une catastrophe. Toulouse s'est fait écraser en Ulster par 38-0. C'est la première fois que ça arrive, un score pareil au stade toulousain. Oyonnax a perdu sur sa pelouse contre les Sarrazins, 45-10. Toulouse et Uyo ferment la marche de leur poule 1. En poule 2, ben pareil, Clermont a été perdre avec Exeter par 31-14. Et Bordeaux a perdu en fin de match, toute fin de match, aux Ospreys par 19-16. Pas de bol. Ospreys premier, Clermont et Bordeaux avec un match de retard à la fin. Poule 3, Glasgow a battu Clanecly, les Scarlets par 43-6. Et le Racing avec sa nouvelle star mondialiste en numéro 10, Dan Carter, a battu Northampton par 33-3. Match facile, le Racing est premier. En poule 4, Stade Français a été écrasé, les Italiens de Trévise par 17-50. Le Stade Français se refait un peu la cerise et se retrouve avec 5 points en 3e position. Et en poule 5, enfin Toulon a gagné difficilement contre le Leinster sur sa pelouse par 24-9. Et enfin Bath a été gagné chez les Wallons Wasps par 25-23, ce qui nous donne premier les Wasps, deuxième Bath et Toulon, troisième. Les matchs retour le week-end prochain. Fédéral 2. Alors, Fédéral 2, une victoire à l'extérieur, comme d'hab, Lyon a été gagné à Dax par 36-26, un match nul, Albi-Béziers 16-16, Biarritz, quatrième victoire de suite, 44-16 contre Carcassonne, Bourgoin a battu facilement Aix-en-Provence, qui les enfonce un peu plus malgré le changement d'entraîneur par 33-12, Colomiers de justesse contre Narbonne par 19-16, Mont-de-Marsan a battu Tarbes, alors Tarbes, ils ont pas de bol, ils ont pris... C'est une catastrophe pour eux, ils auraient dû gagner ce match. 21-19 dans les dernières minutes pour Mont-de-Marsan de gagner le match. Perpignan, enfin, a battu Aurillac par 34-19. Changement d'entraîneur, Benetton Henry, c'est peut-être ça ou pas, on ne sait pas. 34-19. Et enfin, Bayonne a battu l'USM qui s'enfonce un peu plus dans le classement par 27-9. On trouve dans ce classement Lyon premier avec 10 points d'avance sur Bayonne, Béziers 3e, Aurillac 4e, Perpignan 5e. Et en fin de classement, Carcassonne, Dax, Aix-en-Provence et Tarbes. Tarbes a 15 points de pénalité en attendant et va être sûrement rétrogradé en Fédéral 1, voire Fédéral 2 la saison prochaine.
Ce qui s'est passé en Coupe d'Europe là, pour les clubs français, c'est tout l'inverse de ce qui se passe en championnat, parce que quand on regarde Clermont, Toulouse, ça va. Et au contraire du Stade français qui eux ont eu du mal. Et là, par contre, c'est le Stade français qui s'en sort bien et les autres qui plongent. Oui. T'en penses quoi ça vient de quoi, Jean-Claude?
Tu joues contre Trévise, les Italiens, c'est pas les tops non plus du rugby, donc gagner 50-17. De toute façon, chaque fois qu'il y a un club italien dans une poule en Coupe d'Europe, le club français est pratiquement sûr de se qualifier au goal average. Après, l'Ulster, Toulouse, c'est vrai que prendre 38-0 en Ulster, Toulousain, ça leur a pas plu. Et d'Exeter, Clermont a été dépassé en deuxième mi-temps par la furia de ce club. Et puis voilà, quoi, ça arrive.
Est-ce que ça risque de laisser des traces pour le championnat?
Non.
Un petit peu de pub et puis on revient pour la suite. Et la suite, c'est notre premier dossier avec Étienne Spataro, président du collectif Un Dimanche Sans Chasse.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2. Vous recherchez une connexion Internet? Vous voulez apprendre et progresser en informatique? Alors l'espace Cyberbase du Quercy Caussadet est là pour vous. Pour vos activités personnelles ou professionnelles, vos études ou vos loisirs, l'espace Cyberbase de la communauté de communes du Quercy Caussadet vous accueille en accès libre du mardi au samedi matin et vous propose des ateliers ouverts à tous. Tout l'univers de l'informatique s'ouvre à vous, alors n'hésitez plus. Rendez-vous dans votre espace Cyberbase, place de la gare, à Caussade.
Du 1er au 31 décembre, les vitrines de Noël de la Fédération départementale des associations de commerçants du 82 revient. Gagnez une croisière pour deux personnes, 30 séjours logis, 75 paniers gourmands et de nombreux autres lots. Jouez chez vos commerçants de Nègrepelisse, Saint-Étienne-de-Tulmont, Beaumont et Lavitte de Lomagne, Castel, Caussade, Molière, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Cazes, Quélus, Lozerte, Saint-Antonin, Montpezat de Quercy, La France. Les commerçants des marchés et le territoire des deux rives. Bonne fête avec les vitrines de Noël de la FDAC 82. Jeux sans obligation d'achat valable chez les commerçants FDAC participants.
Envie de devenir animateur, directeur de structure de loisirs peut-être, ou de garder des enfants? Alors l'Institut IFAC à Montauban est là pour vous. Formation BAFA, BAFD, approfondissement sur de nombreuses thématiques, qualifications telles que canoë-kayak ou surveillant de baignade. L'IFAC Montauban, c'est des stages en période de vacances scolaires sur Montauban et Midi-Pyrénées. L'IFAC forme au CAP Petite Enfance sur Montauban, Toulouse ou Muret pour travailler en crèche, en école ou à domicile. Bref, l'IFAC Montauban, c'est l'allié local indispensable de vos futures formations. Infos et coordonnées sur bafa-bafd.net avec inscription en ligne.
De Mourico à Montpezat.
Vous écoutez CFM.
Vous écoutez CFM.
98.1.
Lundi Sport avec au téléphone Étienne Spataro, président du collectif Un Dimanche sans Chasse, que je te laisse présenter, David.
Eh bien, un collectif, un dimanche sans chasse. Me direz-vous, quel est le rapport avec le sport? Eh bien, le rapport, il est que le dimanche, il n'y a pas que des chasseurs. Dans la nature, il y a aussi des sportifs. Et ça peut poser des problèmes, ça l'a d'ailleurs sûrement déjà posé. Du coup, eh bien, Étienne Spataro a monté ce collectif, hein, dans lequel il n'est pas tout seul, puisqu'il y a plus de 540 associations de sport et de loisirs de plein air qui se sont jointes à lui pour demander à ce que la chasse, peut-être, mais pas les dimanches. En tous les cas, on veut pouvoir faire du sport tranquillement et sans gilet pare-balles. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Bonsoir Étienne, merci d'être avec nous. Vous faites partie donc des co-signateurs parmi 542 associations d'usagers de la nature. Hein, et parmi ces associations d'usagers, il y a beaucoup d'associations sportives.
Oui, tout à fait. Le collectif pour le dimanche Chansaf rassemble plus de 540 associations d'usagers de la nature, donc des clubs de randonnée, de cyclisme, d'équitation, de canoë-kayak, d'alpinisme, etc., de cours d'orientation, tous les sports qu'on peut pratiquer en plein air. Et donc 540 associations qui demandent l'arrêt de la chasse le dimanche. Puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a chaque année plus de 150 accidents de chasse, dont une majorité surviennent le week-end et précisément le dimanche, qui est le jour qui a le plus grand nombre d'accidents de chasse, du fait que la nature est très fréquentée par de nombreux usagers de la nature. Donc le collectif pour le dimanche sans chasse demande l'arrêt de la chasse le dimanche. Il faut savoir que dans la plupart des autres pays d'Europe, la chasse est limitée. Elle ne se pratique qu'un nombre de jours très limité par semaine. Elle est souvent interdite le dimanche ou interdite plusieurs jours par semaine pour assurer un partage et la tranquillité et la sécurité de tous.
Alors, ça fait longtemps que vous êtes à la tête de ce collectif ?
Alors, le collectif a été créé il y a un an et donc plus de 540 associations ont co-signé à ce jour.
Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que vous vous êtes investi sur ce terrain-là? Vous-même, par exemple, êtes-vous anti-chasse, Étienne Spataro?
Alors, je ne sais pas prendre position pour ou contre la chasse, puisque le collectif pour le dimanche sans chasse tient à rester neutre sur la chasse. La seule revendication, c'est l'arrêt de la chasse le dimanche. Par contre, à titre personnel, je suis randonneur, donc je suis pour pratiquer la randonnée, et j'ai souvent été victime de l'insécurité causée par la chasse. Alors, pas victime par un accident de chasse en tant que tel pour l'instant, mais victime du fait de ce sentiment d'insécurité, des panneaux de chasse interdits, des chemins barrés, des panneaux de sentiers interdits, des chemins barrés, le fait qu'on est souvent victime des perturbations occasionnées par la chasse et qu'on ne se sent pas en sécurité, qu'on ne peut pas exercer son loisir sereinement.
Étienne, il y a plus de 540 associations qui vous ont rejoint dans ce collectif le dimanche sans chasse. Le souci, c'est qu'en face, les chasseurs, c'est du monde aussi, beaucoup, beaucoup de monde. C'est quoi un petit peu l'accueil au niveau des autorités, des collectivités et tous ceux auxquels ceux que vous sollicitez sur ce sujet d'un dimanche sans chasse?
Oui. Alors, par rapport aux chasseurs, il faut savoir que les chasseurs représentent désormais seulement 1,6% de la population française. Donc c'est vraiment une minorité qui accapare et qui insécurise la nature, empêchant la large majorité de pouvoir en profiter. Alors ce collectif pour le dimanche sans chasse reçoit un très bon accueil de la part des clubs et associations sportives. On voit que c'est vraiment une demande réelle de la population qui souhaite pouvoir, au moins une fois par semaine, le dimanche, pouvoir accéder à la nature en toute sécurité. Donc on a un véritable engouement de la part des clubs et associations de sport de plein air.
Et les chasseurs, vous en avez essayé d'en discuter avec eux ?
Il m'arrive effectivement de discuter avec des chasseurs. Certains sont bien entendu totalement défavorables à l'idée. D'autres sont favorables à la mise en place d'un jour sans chasse, notamment le dimanche, puisque certains chasseurs peuvent comprendre effectivement qu'ils ne peuvent pas accaparer la nature les 16 jours de la semaine et qu'un partage équitable doit être mis en place. Il ne s'agit pas d'interdire la chasse, il s'agit simplement de partager avec un temps pour chacun, et notamment à l'arrêt de la chasse le dimanche.
Il y a des actions que vous comptez mener toujours autour de ce collectif le dimanche sans chasse ou c'est bon, un appel à signer la pétition déjà et à rejoindre le collectif?
Oui, bien sûr, nous appelons tous les clubs et associations de sport et loisirs de plein air, tous les usagers de la nature, à co-signer l'appel pour le dimanche sans chat sur le site dimanche-sans-chat.fr. Et sinon, l'essentiel de l'action portée par le collectif pour le dimanche sans chat, c'est une action de sensibilisation, sensibiliser le gouvernement, les élus, les députés, les parlementaires, par rapport à cette problématique, de faire un contrepoids par rapport au lobby chat, ce qui est très influent, et de montrer que la majeure population, la majorité de la population souhaite la mise en place d'un jour sans chat. C'est une mesure populaire, une mesure qui est très attendue. Il y a plusieurs sondages qui ont montré que la large majorité de la population souhaite un arrêt de la chasse le dimanche et se sent en insécurité du fait de la pratique de la chasse. Donc c'est vraiment une mesure que l'on entend porter au sein du gouvernement et des députés.
Vous avez une échéance ?
Non, pas d'échéance particulière. C'est vraiment un travail de fond que nous souhaitons continuer de poursuivre.
Bien, ben voilà, merci d'avoir été sur CFM Radio. On voulait vous donner la parole parce que effectivement, on pense aussi aux associations sportives qui battent la campagne le dimanche. C'est quand et c'est où votre prochaine randonnée avec votre club?
Alors, je pratique la randonnée à titre individuel, donc pas au sein d'un club, mais je pratique régulièrement, notamment le week-end, en particulier le dimanche, puisque le dimanche, c'est le jour des promenades en famille, c'est le jour où un grand nombre de personnes se rendent dans la nature. Donc, pour la tranquillité et la sécurité de tous, pas de chasse le dimanche.
Merci, Étienne Spataro, de l'avoir dit sur CFM Radio. Au revoir.
Au revoir, merci.
Alors là, je crois, si tout va bien dans notre nouveau conducteur, mon cher David, que c'est l'heure de l'handisport. Non, d'un peu de musique, pardon. Est-ce qu'on a le temps d'un peu de musique, Aurélien? Oui, on a le temps d'un peu de musique. Un peu de musique. Et puis juste après, c'est la première partie de la rubrique handisport. Hein, effectivement. Yodelis Fade Away. Lundi sport, la suite avec la rubrique Handi sport national et international. Jennings.
Ouais, international pour commencer. Un seul résultat, mais 7 médailles pour nos skieurs français lors de la Coupe du Monde de ski nordique en Russie la semaine dernière. Alors 7 médailles tricolores, une en or, 4 en argent et 2 en bronze. Alors la majorité des compétiteurs étaient accompagnés de leur guide. car ils sont non-voyants, et mention spéciale à Benjamin Danvier, qui lui est handicapé des membres inférieurs. Donc il a remporté 5 des 7 médailles, donc une en or en biathlon avec 17 sur 20 au tir. C'est vraiment une super performance.
Ok, on se retrouve tout à l'heure pour l'handisport dans notre région. L'info en plus, David.
Eh ben, on dirait pas, vu la météo par chez nous ces derniers temps, mais il y a de la neige en France ces temps-ci. J'ai une preuve. Il y avait une épreuve de la Coupe du Monde de ski alpin le week-end dernier à Val d'Isère. Alors, c'est peut-être pas de la vraie neige, ils sont peut-être allés la chercher ailleurs. Bon, bref, tout ça pour vous dire que côté français, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Julien Liseroux, le meilleur, il a fait 5e et cette manche de slalom a été remportée par un Danois, Christophe Hersen.
C'est l'heure des infos ou pas? Oui, c'est l'heure des infos et on se retrouve juste après, à de suite.
CFM. CFM.
Il est 18h, il vous tarde de vous mettre au chaud? Trouvez la solution avec les Maîtres du Feu à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM, toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir à tous, les élections régionales, pas de surprise dans notre nouvelle région. Hier, c'est Carole Delga du Parti Socialiste qui a raflé la mise avec près de 44,6% des voix. Louis Alliot du Front National est arrivé en deuxième position avec 33,8% des suffrages. Le candidat de la droite, Dominique Régnier, a fermé la marche de cette triangulaire avec 21,6%. Même tendance dans notre département où la candidate socialiste est arrivée en tête avec plus de 30% des voix derrière le leader du Front National qui a totalisé 37,57%, soit seulement 2000 voix d'écart entre les deux candidats de tête en Tarn-et-Garonne. La participation, elle a été particulièrement importante chez nous avec une abstention de seulement 36% hier. Près de 2 électeurs sur 3 se sont donc rendus aux urnes. Le nouveau conseil régional comptera donc 93 élus de la majorité de gauche, 40 élus Front National et 25 élus de droite. L'élection du président, ou plutôt de la présidente de la nouvelle région aura lieu début janvier et ce sera donc Carole Delga. Portrait avec vous, Olivier Montaigu.
À 44 ans, Carole Delga va devenir la plus jeune présidente de région en France. Seconde au premier tour, elle est parvenue à rassembler une gauche divisée sur de nombreux thèmes, fusionnant avec les écologistes et le Front de Gauche. Cette Toulousaine a fait l'objet d'une ascension fulgurante depuis le début de sa carrière. Elle a commencé au syndicat des eaux du Comminges avant d'être chargée de mission au conseil régional de Midi-Pyrénées en 2007. Après cela, tout va très vite. Elle est élue à la commune de Martres-Tolosane en 2008 avec 65% des voix au premier tour. Dès 2010, Martin Malville la prend sous son aile et en fait sa vice-présidente à la ruralité. En 2012, elle est élue à l'Assemblée nationale et devient secrétaire d'État au commerce sous le gouvernement de Manuel Valls. C'est donc tout naturellement qu'elle est choisie pour représenter la région. Un caractère, une énergie, une expérience qu'elle a dit souhaiter mettre au service de sa région hier soir.
Dans le reste de l'actualité, les Pyrénées de nouveau endeuillées ce week-end. Une randonneuse a fait une chute mortelle au-dessus de la station de Gavarnie. L'occasion de rappeler que la montagne est dangereuse, particulièrement en ce moment où la couche de neige fine est extrêmement glissante. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée à l'écoute de CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
Allez, dans cette seconde partie de lundi sport, on s'intéresse évidemment au foot, au rugby, en région et dans nos localités. On s'intéressera également à la pétanque grâce à un reportage signé Jean-Claude Desfarges. Et puis il y aura les questions des chroniqueurs. Et on commence par celle de David Fabier, par exemple. David.
Allez, moi je vais vous poser une petite devinette. Si je vous dis Mélissa Mailleux, qu'est-ce que vous me dites?
Moi je peux pas. Piscine, Mailleux. Natation.
Non.
Escrime. C'est Mailleux ou Mailleux?
Mailleux.
Ah.
Oui, pas maillot de bain.
Maillot, ouais, justement, il y a à voir ou pas?
Non.
Donc, elle est sportive.
Elle est sportive, voilà.
En équipe,
sportive française.
Elle fait pas du windsurf?
Non.
En équipe ou individuelle?
En équipe. Et elle fait parler d'elle en ce moment.
Sport d'hiver,
ah, je sais. Elle joue au. Je l'ai vu à la télé. Elle joue au.
Baseball.
Au baseball.
Au baseball, tout à fait. C'est une petite française, tout à fait, de 16 ans.
Mais en deux mots, hein, baseball, attention. Hein.
Oui. petite française de 16 ans qui est dans le viseur de la Major League de baseball en Amérique. Là-bas, ça pourrait être la première joueuse.